Chapitre 20. Monsieur Collins n'eut pas le loisir de réfléchir beaucoup à l'heureux succès de ses amours, car Madame Bennet, ayant attendu dans le vestibule la fin de la conférence, ne vit pas plutôt la porte du salon s'ouvrir et Elisabeth s'avancer avec précipitation vers l'escalier, qu'elle le vint trouver et lui témoigna dans les termes les plus expressifs tout le plaisir qu'elle aurait à l'appeler son gendre. Monsieur Collins reçut ses félicitations et y répondit avec joie, non sans lui conter tout au long les détails de leur entrevue, dont le résultat, selon lui, était des plus satisfaisants, puisque le refus formel de sa belle cousine ne pouvait venir naturellement que de son extrême modestie et d'une délicatesse de sentiment tout à fait aimable. Le récit néanmoins surprit Madame Bennet. Elle aurait bien voulu être comme lui, persuadée qu'Elisabeth, en rejetant ses offres, n'avait eu dessein que de l'encourager, mais elle n'osait le croire et ne put s'empêcher d'en exprimer ses craintes. « Mais soyez assuré, monsieur Collins, ajouta-t-elle, qu'on fera entendre raison à Lizzie. Je vais moi-même lui parler. C'est une petite sotte, une petite entêtée, qui ne sait pas ce qu'il lui faut. Je saurai bien le lui apprendre. » « Pardonnez, madame, mon incivilité, mais s'il est vrai que votre fille soit sotte et entêtée, elle ne peut être une femme désirable pour un homme comme moi, qui naturellement cherche le bonheur dans le mariage. Si donc elle persiste dans son refus, il serait peut-être prudent de ne point forcer son inclination, attendu qu'avec de tels défauts, elle ne pourrait contribuer à ma félicité. » « Vous m'avez mal entendu, monsieur, » dit Madame Bennet, tout alarmée. « Lizzie n'a d'entêtement que sur certaines choses. En général, c'est la meilleure enfant du monde. Je vais de ce pas parler à monsieur Bennet, et soyez sûr que nous saurons la rendre raisonnable. » Et sans lui donner le temps de répondre, elle alla trouver son mari. « Oh, monsieur Bennet, » s'écria-t-elle en entrant, « votre présence m'est nécessaire. Toute la maison est en confusion. Venez forcer Lizzie à épouser monsieur Collins, car elle déclare qu'elle ne veut point de lui, et si vous ne faites diligence, il changera lui-même d'avis et ne voudra plus d'elle. » Monsieur Bennet, lorsqu'elle entra, levant les yeux de dessus son livre, les porta sur elle avec l'air d'une profonde indifférence que ne put en rien altérer la vivacité de ce récit. « Je n'ai pas le bonheur de vous comprendre, lui dit-il dès qu'elle eut fini. De quoi me parlez-vous ? De monsieur Collins et de Lizzie. Lizzie assure qu'elle n'épousera pas monsieur Collins, et monsieur Collins commence à dire qu'il ne veut plus de Lizzie.
Et que puis-je faire à cela? C'est une affaire qui me paraît désespérée.
Parlez-en à Lizzie, ordonnez-lui de l'épouser.
Qu'on me la fasse venir, je lui dirai mon sentiment. »
Madame Bennet sonna, et Elisabeth eut ordre de se rendre dans la bibliothèque. « Approchez, ma fille, s'écria le père dès qu'elle parut. « Je vous ai fait appeler pour une affaire importante. Il paraît que M. Collins vous a demandé en mariage. Cela est-il vrai ?»«
Oui, mon père. »«
Et vous l'avez refusé ?»«
Oui, mon père. »«
Nous voilà au but. Votre mère vous commande de l'épouser. Dis-je bien, Madame Bennet ?»«
Oui, ou de ma vie, je ne la verrai. » »«
Une alternative bien cruelle se présente à vous, Elisabeth. De ce jour, il vous faut être étrangère à l'un ou à l'autre de vos parents. » « Votre mère ne veut plus vous voir si vous refusez M. Collins, et moi je vous défends de paraître en ma présence si vous l'acceptez. » Elisabeth ne put que sourire d'un discours aussi singulier, mais Madame Bennet, qui s'était persuadée que son mari verrait comme elle cette affaire, en fut vivement contrariée. « Que voulez-vous dire, M. Bennet ? Vous rêvez, je crois, vous m'aviez promis de lui ordonner. « Il y a deux choses, ma chère, deux choses dont je me suis toujours réservé le libre usage. La première, c'est mon bon sens. La seconde, mon appartement. Il me tarde d'y être seul. » Tout espoir du côté de son mari était perdu, mais Madame Bennet, malgré ce contretemps, ne renonça pas à son projet. Elle en parla plus d'une fois à Elisabeth, n'épargnant ni caresses ni menaces. Elle voulut gagner Hélène, mais Hélène, avec sa douceur accoutumée, refusa de la seconder, et Elisabeth, tour à tour sérieuse et folâtre, employait pour lui répondre le raisonnement et la plaisanterie. Bien qu'elle changeât souvent de ton, sa résolution n'en fut pas moins inébranlable.
Cependant, M. Collins, seul et en silence, méditait sur ce qui venait de se passer. Il avait une trop haute opinion de lui-même pour comprendre le refus de sa cousine, et bien que son orgueil fût blessé, il n'en éprouvait nul autre chagrin. Son attachement pour elle était moins réel qu'imaginaire. Puis le moyen de la regretter, en pensant que les rapports de sa mère pouvaient être vrais, une femme entêtée, cette idée seule le faisait frémir. Toute la famille était encore en émoi lorsqu'on annonça Charlotte Lucas. Lydia courut à sa rencontre, et du plus loin qu'elle l'aperçut, « Vous venez fort à propos, il y a ici sujet de se divertir. Que pensez-vous qu'il nous soit arrivé? Monsieur Collins a demandé Lydie en mariage, et Lydie l'a refusée. » Charlotte eut à peine le temps de répondre avant l'arrivée de Kitty, qui lui vint conter la même nouvelle, et comme elles entraient au salon où se trouvait seule Madame Bennett, celle-ci entama un long discours sur le même sujet. Elle voulait exciter la compassion de Mademoiselle Lucas et la priait avec instance d'engager Lydie, son amie, à se rendre au vœu de toute sa famille. « Je vous en conjure, ma chère Mademoiselle Lucas, » ajouta-t-elle d'un ton mélancolique. « Personne ne parle pour moi, on me traite indignement. Personne, non, personne n'a pitié de mes pauvres nerfs, je suis bien malheureuse. » Charlotte voulait répondre et ne savait trop que dire. L'arrivée d'Hélène et d'Élisabeth l'attira de peine. « Tenez, la voyez-vous ? » continua Madame Bennett. « Elle a l'air aussi gaie que de coutume. Peu lui importe que nous soyons tous dans l'affliction. Mais ce qu'il y a de certain, Mademoiselle Lydie, c'est que si vous voulez toujours refuser les parties qu'on vous propose, vous finirez par ne point vous marier. Et après la mort de votre père, Dieu sait qui vous nourrira. Quant à moi, je n'en aurai pas le moyen, je vous en avertis. De ce jour-ci, vous ne m'êtes plus rien. J'ai juré, vous le savez, que de ma vie, je ne vous parlerai, et je tiens mon serment. Quel plaisir puis-je trouver à m'entretenir avec des enfants indociles? Moi, naturellement peu causeuse, je me soucie bien de conversation avec une santé comme la mienne. Soutenir un entretien est quelque chose de bien pénible. On ne sait pas ce que je souffre, hélas. Pour être plaint, il faut se plaindre, et ce n'est pas ma coutume. » Ses filles l'écoutaient en silence. Aucune d'elles ne cherchait à l'interrompre, sachant par expérience que vouloir raisonner avec elle ou s'efforcer de la consoler, c'eût été l'irriter davantage. Elle parla donc sans discontinuer, jusqu'au moment où M. Collins les vint joindre. Et le voyant entrer, elle dit à ses enfants « Maintenant, mesdemoiselles, c'est à votre tour de vous taire. Qu'aucune de vous ne vienne m'interrompre. Je veux avoir avec monsieur un moment d'entretien. » Élisabeth se hâta de quitter l'appartement. Elle fut suivie par Hélène et Kitty. Mais Lydia, loin d'imiter leur discrétion, paraissait décidée à tout écouter. Et Charlotte, d'abord retenue par M. Collins, qui, avec beaucoup de civilité, s'informait de ses nouvelles, par un peu de curiosité, se contenta d'aller à la fenêtre et de feindre de ne pas entendre. D'un accent plaintif, Madame Bennett commença ainsi l'entretien annoncé. « Oh, monsieur Collins! Ma chère dame, gardons, je vous prie, sur ce point un silence inviolable. Loin de moi, continua-t-il bientôt d'une voix altérée, toute idée de ressentiment. Supporter avec résignation les contrariétés de la vie, c'est le devoir de l'homme, le devoir surtout d'un ecclésiastique comme moi, qui, à l'âge où je suis, a déjà obtenu un si notable avancement, et je crois être résigné. Peut-être le serais-je moins si je n'avais quelque raison de croire que ma belle cousine, en m'honorant de sa main, n'aurait pu me rendre vraiment heureux, car j'ai souvent fait cette remarque, madame, que la résignation n'est jamais plus facile que quand le bien qui nous est refusé commence à perdre pour nous une partie de son prix. Ne croyez point, madame, que j'ai voulu manquer au respect en renonçant, comme je le fais, à mademoiselle votre fille, sans vous avoir préalablement supplié d'interposer votre autorité en ma faveur. L'usage voulait, je crois, qu'au lieu d'accepter mon congé de la bouche de ma belle cousine, j'eusse attendu à le recevoir de vous. Mais après tout, nul homme n'est infaillible. Je vous puis assurer que mon intention était pure, et en désirant trouver à Langbourne une aimable compagne, J'ai bien moins consulté mon propre avantage que celui de votre famille. Si cependant mes démarches ont été le moins du monde répréhensibles, je vous en fais mille excuses.